Wadkmanne, un don unique donné par Christ à son Église, compilé par Ensemble Rebâtissons la Maison. Je considère Wadkmanne comme un don unique donné par la tête à son corps. Je le respecte pleinement comme un tel don. Les révélations de Christ, de l'Église, de l'Esprit et de la vie que j'ai vues à travers Wadkmanne, les infusions de vie que j'ai reçues de lui et les choses concernant l'œuvre et l'Église que j'ai apprises de lui nécessitent l'éternité pour que leur vraie valeur soit estimée. Witness Lee, la visitation de Dieu arrive en Chine. Dans la création, Dieu a ordonné que l'homme remplisse la terre et domine sur toutes les créatures créées. Genèse 1, 28. Dans la rédemption, Dieu a ordonné aux disciples d'aller dans le monde entier pour prêcher l'évangile et faire des nations des disciples afin d'établir son royaume sur la terre. Marc 16, 18. Matthieu 28, 29. Après la Pentecôte, le territoire entourant la mer Méditerranée fut évangélisé en moins d'un demi-siècle et l'évangile se répandit en Europe dans l'intervalle des deux premiers siècles. Néanmoins, c'est là qu'il y fut confiné pendant plus de 10 siècles. Après la découverte de l'Amérique, l'évangile fut apporté à l'hémisphère occidental à travers l'immigration européenne, mais jamais il ne se répandit correctement avant la défaite de l'Espagne. Les Nestoriens emmenèrent leur religion de Perse jusqu'en Chine au 7e siècle. Le nestorianisme était une déviance par rapport à la révélation divine. Ce n'était pas le pur évangile de vie. 3 empereurs de la dynastie Tang de Chine reçurent cette religion. Cependant, au bout de 2 siècles, le nestorianisme fut interdit et s'évanouit à cause de son inexactitude et de son absence de vie. Après cela, il n'y eut aucune trace de christianisme sous aucune forme en Chine jusqu'à l'arrivée des franciscains au XIIIe siècle et des jésuites au XVIe siècle. Ces derniers, avec leur enseignement occidental, étaient également sans vie et remplis d'ordonnances traditionnelles. Ils ne réussirent pas à gagner les Chinois, conservateurs qui étaient saturés des enseignements éthiques de Confucius et trompés par les superstitions du bouddhisme. Ce fut seulement au début du XIXe siècle que le pur évangile et la Bible furent apportés à la Chine. Après la défaite de l'Espagne, qui était la puissance du monde dominée par le catholicisme au XVIe siècle, de nombreuses missions protestantes, par la grâce souveraine de Dieu, furent établies en Europe comme en Amérique pour envoyer des centaines de missionnaires dans les pays païens. Plus de missionnaires furent envoyés en Chine que dans n'importe quel autre pays. Robert Morison arriva à Canton, la capitale de la province la plus au sud de Chine, au tout début du XIXe siècle. Les congrégationalistes, les méthodistes et les anglicans vinrent dans la province de Fujian située dans le sud du pays. Les presbytériens américains et les baptistes du sud arrivèrent dans la province de Shantung située dans le nord. L'Alliance chrétienne missionnaire atteignit le port international de Shanghai. La mission intérieure de la Chine effectua une percée pionnière dans un certain nombre de provinces intérieures et d'autres missions s'établirent dans de nombreux autres territoires. Beaucoup de ces missionnaires, tout spécialement les pionniers, étaient des hommes de Dieu. Ils sacrifièrent beaucoup pour obéir au grand commandement du Seigneur et souffrirent de grands maux pour l'Évangile. À travers leur travail pionnier, beaucoup de portes en Chine furent ouvertes et des milliers de gens qui étaient dans les ténèbres et le péché furent amenés au Seigneur et reçurent le salut du Seigneur. Ces missionnaires amenèrent avec eux 3 trésors, le nom du Seigneur, qui est le Seigneur lui-même, l'Évangile et la Bible. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Cependant, l'Évangile ne fut pas apporté de façon adéquate aux Chinois appartenant à la classe instruite et la vérité concernant la vie, et l'Église ne fut pas libérée efficacement avant la première décade du XXe siècle. En 1900, Satan fut l'instigateur de la révolte des Boxeurs. Dans ce soulèvement, de nombreux missionnaires et un grand nombre de croyants chinois moururent en martyrs. Satan avait l'intention d'interrompre la visitation de Dieu en Chine. Mais dans la grâce souveraine de Dieu, cette persécution éveilla un lourd fardeau parmi les saints du monde occidental qui prièrent désespérément pour que Dieu agisse en Chine. Nous avons la conviction que c'est en réponse à ces prières désespérées que le Seigneur leva un certain nombre d'évangélistes de premier plan parmi les croyants chinois après la révolte des Boxeurs. Ces prédicateurs, natifs, prévalurent dans la prédication de l'Évangile et leur prédication atteignit les étudiants de la nouvelle génération chinoise. Aux alentours des années 1920, l'évangile pénétra dans de nombreuses écoles et un grand nombre d'étudiants de lycées et d'universités furent capturés par le Seigneur dans tout le pays, depuis l'extrémité nord jusqu'à l'extrémité sud. Un certain nombre de brillants étudiants parmi ces derniers furent appelés et équipés par le Seigneur pour accomplir son œuvre. Un de ces remarquables étudiants était né Shu Tzu. Son nom anglais était Henri Ney. Il naquit à Suatō, dans la province de Fengxian en Chine, en 1903. Son grand-père paternel, Ney Yushang, étudia au collège congrégationnel américain à Foshō et devint le premier pasteur chinois de la région nord de Fengxian, parmi les congrégationalistes. La grand-mère paternelle de Ney Shu Tzu était une étudiante au collège congrégationnel américain de filles à Foshō. Son père, Ney Wenxiao, un chrétien de deuxième génération, fit ses études au collège méthodiste américain à Foshō. Ney Wenxiao était bien formé dans le chinois classique et devint officier dans les douanes chinoises. La mère de Ney Shu Tzu, Lin Hoping, fit ses études à l'école de filles occidentales chinoises de Shanghai. Cette école maintenait un niveau élevé en anglais. Ney Wenxiao, chrétien de troisième génération, étudia au collège méthodiste Trinity à Foshō. Cette école était une université en deux ans qui maintenait un niveau élevé à la fois en chinois et en anglais. Après avoir été levé par le Seigneur pour accomplir son grand commandement, il adopta le nouveau nom anglais de Watmaine et le nouveau nom chinois de Toshang, qui signifie le son d'alerte d'une sentinelle. En tant que chrétien nouvellement régénéré, appelé par le Seigneur, il se considérait comme une sentinelle que le Seigneur avait levée pour faire entendre le son de l'alerte aux gens vivant dans la sombre nuit. Il devint en définitive, par la grâce et la miséricorde abondante du Seigneur, un don unique pour ce présent siècle. Watmaine fut donné par le Seigneur au corps pour son œuvre de restauration sur la terre, non seulement en Chine mais aussi dans le monde entier. Sauvé et appelé, parmi les évangélistes que le Seigneur leva en Chine se trouvait une jeune sœur, dont le nom anglais était Dora Yu et dont le nom chinois était Yu Tsutu. Elle avait été sauvée à un âge précoce et ensuite envoyée en Angleterre pour y étudier la médecine. Sur son trajet vers l'Angleterre, son bateau accosta dans le port de Marseille dans le sud-est de la France. À ce moment-là, elle reçut un lourd fardeau et dit au capitaine qu'elle ne pourrait pas continuer son voyage et qu'elle devait retourner en Chine pour y prêcher l'évangile de Christ. Le capitaine était perplexe, mais ne pouvait rien faire d'autre que de la ramener chez elle. Ses parents furent extrêmement déçus par son retour, et bien qu'ils aient tenté de lui faire changer d'avis au sujet de son désir de prêcher l'évangile, leurs efforts ne l'emportèrent pas. En définitive, ils abandonnèrent. Elle quitta vite la maison, vagabondant ici et là, prêchant l'évangile dans les rues. Personne ne la louait. Elle faisait simplement confiance au Seigneur. Le Seigneur subvenant à ses moyens, elle loua une devanture de magasin dans la banlieue de Shanghai pour prêcher l'évangile. À partir de ce moment-là, elle était invitée par diverses dénominations pour conduire de nombreuses réunions de prédication de l'évangile. Elle voyageait intensément à travers de nombreuses provinces accomplissant le travail de l'Évangile et devint un témoin préval pour le Seigneur. Elle continua à prêcher tout le restant de sa vie, amenant des centaines au Seigneur. En février 1920, Dora Yu fut invitée à venir à Foshō, la capitale de la province de Fengxian, où elle prêcha l'Évangile dans un auditorium méthodiste. Sa prédication était si convaincante et remplie de puissance qu'après chaque réunion, des tracés de larmes pouvaient être aperçus sur le sol à cause des pleurs de l'audience. Beaucoup étaient sauvés. Parmi les convertis se trouvait une dame chinoise instruite, la mère de Watmaine. Elle et son mari étaient méthodistes mais n'avaient pas expérimenté le salut. Après avoir été sauvée, elle retourna à la maison et fit une profonde confession à son mari et à ses enfants. Son fils le plus âgé, Shu Tzu, fut grandement surpris et inspiré par sa confession. Il sentait qu'il devait aller à la réunion de Dora Yu pour voir ce qui avait amené un tel changement chez sa mère. Le jour suivant, il s'y rendit et le Seigneur le saisit. Peu après le même soir, il vit en vision le Seigneur Jésus accroché à la croix. À travers cette expérience, le Seigneur l'appela à être son serviteur. Il se convertit ainsi à l'âge de 17 ans. Dès le commencement, sa consécration au Seigneur fut sans réserve. À l'âge de 18 ans, il rencontra Mademoiselle Barber, qui était une missionnaire indépendante envoyée par la Surechapelle, en Norvège, une église qui devait beaucoup au grand Robert Govet. Mademoiselle Barber allait avoir une influence significative sur Oatmane, premièrement par ses conseils spirituels pleins de maturité, et deuxièmement en l'introduisant à la meilleure littérature chrétienne, en lui prêtant des ouvrages chrétiens classiques. Oatmane était un studieux étudiant de la Bible. Son désir de voir et de faire la volonté et les désirs de Dieu le conduisit à avoir un ministère enraciné dans la Bible. À côté de la Bible, il lisait sans cesse, spécialement les classiques des mystiques chrétiens. Il traduisit en chinois le petit livre de Madame Guyon sur la prière Andrew Murray, Robert Govet, G. H. Pambert, D. Monsieur Panton, G. H. Lang, Jesse Ben Lewis et d'autres. Il avait en sa possession une grande collection des écrits des frères J. N. Darby, W. Kelly, C. H. McIntosh. Il lisait aussi des exposés bibliques, des biographies et avait une connaissance précise de l'histoire de l'Église. Il était en étroite communion avec Theodore Austin Spark et les frères qui étaient de l'Église Honorable Christian Fellowship à Londres. En fait, Oatmane considérait le frère Austin Spark comme son mentor spirituel. Leur communion était riche et fructueuse. Le ministère de Oatmane dura environ 30 années. Il fut l'instrument divinement choisi à travers lequel des centaines d'églises furent implantées et entourées de soins bienveillants, non seulement en Chine mais également dans tout l'Extrême-Orient. Sa compréhension de la vie chrétienne et de l'expression de l'Église était aussi proche de la révélation biblique que possible. Il suffit pour s'en convaincre de lire des livres tels que « La vie chrétienne normale » et « La vie d'Église normale ». Il était aidé dans son travail par des co-ouvriers doués comme Witness Lee, Stephen Kong, Fett Fulluk, Simon Mick, James Chen et d'autres qui veillèrent soigneusement à ce que l'œuvre fût fortifiée à travers un riche ministère. Oatmane fut arrêté et emprisonné par les communistes en 1952. Il ne fut jamais relâché et mourut en prison en 1972. Son ministère eut un impact significatif, non seulement en Extrême-Orient, mais aussi dans le monde entier. Nous pouvons encore aujourd'hui tirer grandement profit de lui à travers ses nombreux livres, qui presque tous sont la transcription de ses sermons rendus disponibles, sans restriction grâce à certains de ses co-ouvriers, qui se firent un point d'honneur à publier son ministère, pour le plus grand bénéfice des saints, en recherche du monde entier. Témoignage personnel de Oatmane donné à Kulansu, dans la province de Fengtian, le 18 octobre 1936. Introduction. Ces trois témoignages de frère Oatmane furent donnés au cours d'une réunion pour les collaborateurs qui eut lieu en octobre 1936 à Kulansu, une île qui se trouve au large de la côte sud-est de la province de Fengtian, en Chine. Pour autant que je le sache, ce fut la seule fois dans sa vie où il parla en détail de ses affaires personnelles. Ce n'est que très rarement qu'il avait parlé, en public, de sa propre expérience spirituelle, probablement afin que personne n'ait, à mon sujet, une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi, 2 Corinthiens 12, 6. Le témoignage de Paul, dans 2 Corinthiens, ne fut divulgué que 14 années après les faits. Par le passé, j'ai souvent pensé à publier ces trois messages, mais, pour être en accord avec la façon de voir de Oatmane, j'en ai différé la publication jusqu'à ce jour, après un laps de temps de 37 ans. Je crois que le temps opportun est maintenant venu, puisqu'il est décédé le 1er juin 1972. J'espère que le lecteur voudra bien ne pas trop s'attarder à analyser sa manière d'être, mais que, plutôt, il verra comment le Seigneur a œuvré en lui. Parce qu'il était disposé à laisser le Seigneur œuvrer en lui, la gloire de ce dernier put, dès lors, être manifestée, tout comme Paul le dit dans 2 Thessaloniciens 1, 12, « Ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous serez glorifié en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. » Ces trois témoignages ne sauraient en aucune façon recouvrir la totalité de sa vie et de son œuvre spirituelle avant 1936. En lisant le présent témoignage, la revue chrétienne et les lettres ouvertes qu'il a publiées avant 1936, nous pouvons voir qu'il y a encore d'innombrables témoignages et travaux qu'il vaudrait la peine de mentionner. Dans cette réunion pour les collaborateurs, ce fut par manque de temps qu'il ne put parler davantage. Premier témoignage, le 18 octobre 1936, acte 26, 29, Galatin 15. Salut et vocation, l'arrière-plan familial. Je suis né dans une famille chrétienne. J'étais le troisième enfant précédé par deux sœurs. Parce que j'avais une tante qui avait donné naissance à 6 filles successives, ma tante paternelle était mécontente lorsque ma mère a donné naissance à 2 filles. D'après les coutumes chinoises, les garçons sont préférés aux filles. Lorsque ma mère a donné naissance à 2 filles, les gens disaient qu'elle serait, probablement comme ma tante, qu'elle enfanterait une demi-douzaine de filles avant de donner naissance à un garçon. Bien qu'à cette époque ma mère n'ait pas été clairement sauvée, elle savait comment prier. Ainsi, elle a parlé au Seigneur, lui disant « Si j'ai un garçon, je te le consacrerai ». Le Seigneur a entendu sa prière et je suis née. Mon père m'a dit « Avant ta naissance, ta mère a promis de te présenter au Seigneur ?» Salut et service. J'ai été sauvée en 1920 à l'âge de 17 ans. Avant d'être sauvée, j'ai expérimenté une sorte de conflit mental au sujet du fait s'il fallait ou non que j'accepte le Seigneur Jésus comme mon sauveur et que je devienne le serviteur du Seigneur. Pour la plupart des gens, le problème au moment du salut est celui de savoir comment être délivré du péché. Pour ma part, le fait d'être délivré du péché et ma carrière étaient liés. Si je devais accepter le Seigneur Jésus comme mon sauveur, je devais l'accepter simultanément comme mon Seigneur? Il me délivrerait non seulement du péché mais aussi du monde. À cette époque, j'étais effrayée par l'idée d'être sauvée, parce que je savais qu'une fois sauvée, je devais servir le Seigneur. Par nécessité, par conséquent, ma conversion allait être une conversion duale. Il m'était impossible de mettre de côté l'appel du Seigneur en ne désirant que le salut. Je devais choisir entre soit croire au Seigneur et avoir un salut dual, soit laisser échapper les deux. Pour moi, accepter le Seigneur signifierait que les deux événements se produiraient simultanément. Décision définitive. Le 29 avril 1920 au soir, j'étais seule dans ma chambre. Je n'avais pas la paix dans mon esprit. Que je m'asseye ou que je m'allonge, je ne pouvais pas trouver le repos, car à l'intérieur de moi, il y avait ce problème de savoir si je devais ou non croire au Seigneur. Ma première inclinaison était de ne pas croire au Seigneur Jésus et de ne pas être chrétien. Cependant, cela me mettait mal à l'aise au fond de moi. Il y avait un réel combat au-dedans de moi. Alors je me suis agenouillée pour prier. Au début, je ne trouvais aucun mot à dire dans ma prière. Mais finalement, beaucoup de péchés sont venus devant moi et j'ai réalisé que j'étais pécheur. Je n'avais jamais eu une expérience semblable dans ma vie avant ce moment-là. Je me suis vue moi-même comme un pécheur et j'ai aussi vu le Seigneur. J'ai vu la pourriture du péché et j'ai aussi vu l'efficacité du précieux sang du Seigneur qui me purifiait et me rendait plus blanc que la neige. J'ai vu les mains du Seigneur clouées à la croix et au même moment, je l'ai vu étendre ses mains vers l'avant pour m'accueillir en disant « Je suis ici dans l'attente de te recevoir ». Submergé par un tel amour, il n'était pas possible que je le rejette et j'ai décidé de l'accepter comme mon sauveur. Auparavant, je me moquais de ceux qui croyaient au Seigneur, mais ce soir-là, je ne pouvais pas rire. Au lieu de cela, j'ai pleuré, confessé mes péchés, cherchant le pardon du Seigneur. Après avoir fait ma confession, le fardeau des péchés m'était enlevé et je me suis senti flotté et plein de joie et de paix intérieure. C'était la première fois de ma vie que j'ai su que j'étais pécheur. J'ai prié pour la première fois et j'ai eu ma première expérience de paix et de joie. Il est possible qu'il y ait eu une certaine paix et une certaine joie avant, mais l'expérience vécue après mon salut a été réelle. Seul dans ma chambre ce soir-là, j'ai vu la lumière et perdu conscience de tout ce qui m'environnait. J'ai dit au Seigneur, « Seigneur, tu as vraiment été miséricordieux à mon égard. Je rejette mes ambitions, si chères à mes yeux. Dans l'assistance, aujourd'hui, il y a au moins 3 de mes anciens camarades de classe, dont frère Kwang Yiweg, qui peuvent témoigner à la fois de ma mauvaise conduite et de mes très bonnes notes en classe. D'un côté, je transgressais souvent le règlement de l'école, alors que de l'autre côté, mon intelligence, un don de Dieu, me permettait d'être le premier à tous les examens. Mes compositions étaient souvent sélectionnées pour paraître au tableau d'affichage. Je me fiais aveuglément à mon jugement, je faisais de nombreux rêves de jeunesse et forgeais des projets de carrière. Si je travaillais suffisamment, Pensais-je, je pourrais atteindre n'importe quel niveau. Après mon salut, de nombreux changements se produisirent. Tous les projets que j'avais formés pendant plus de 10 ans furent vidés de leur sens et mes chères ambitions mises au rancard. Dès ce moment, avec l'assurance indubitable de l'appel de Dieu, je sus quelle allait être l'orientation de ma vie. Je compris que le Seigneur m'avait attiré à lui à la fois, pour mon propre salut et pour sa gloire. Il m'avait appelé à le servir et à être son collaborateur. Auparavant, j'avais méprisé les prédicateurs et les sermons parce qu'à cette époque, la plupart des prédicateurs étaient les employés serviles de missionnaires européens ou américains et gagnaient tout au plus 8 ou 9 dollars par mois. Je n'avais jamais imaginé une seconde que je deviendrais prédicateur, une profession que je considérais comme insignifiante et méprisable. J'apprends à servir le Seigneur. Après avoir été sauvé, alors que les autres apportaient des romans qu'ils lisaient en classe, j'apportais une Bible afin de l'étudier un. Par la suite, je quittais l'école pour entrer à l'Institut pour l'étude de la Bible que sœur Dora Yu, une évangéliste célèbre, avait fondée à Shanghai. Peu de temps après, cependant, elle me renvoya poliment de l'Institut avec cette explication qu'il ne serait pas opportun que j'y reste plus longtemps. Mes goûts de gourmet, ma manière désinvolte de m'habiller et les heures tardives auxquelles je me levais décidèrent sérieux à me renvoyer à la maison. Mon désir de servir le Seigneur avait reçu un coup sérieux. Je pensais que ma vie avait été transformée, mais il restait, en fait, encore beaucoup de choses à changer. Comprenant que je n'étais pas prêt à servir Dieu, je décidai de retourner à l'école. Mes camarades de classe se rendirent compte que certaines choses avaient changé, mais aussi que le fond de mon ancien tempérament était toujours le même. Pour cette raison, mon témoignage à l'école n'était pas très percutant et lorsque j'essayais de témoigner à frère Wegg, il ne me prêtait aucune attention. 2. J'apprends à amener les gens à Dieu. Après que je fus devenu chrétien, j'eus spontanément le désir d'amener d'autres personnes à Christ, mais au bout d'une année passée à témoigner à mes camarades de classe, il n'y avait pas de résultat visible. Je pensais qu'avec davantage de mots et d'arguments, mon témoignage gagnerait en efficacité, mais il ne semblait cependant pas avoir d'effet sur les autres. Quelque temps après, je rencontrai une missionnaire du monde occidental, Mai Grose, qui me demanda combien de personnes avaient été sauvées par mon intermédiaire durant cette première année. Je baissai la tête et avouai humblement qu'en dépit de mes efforts pour prêcher l'évangile à mes camarades de classe, aucun d'eux n'avait été sauvé. Elle me dit ouvertement qu'il y avait quelque chose entre le Seigneur et moi qui entravait mon efficacité. Peut-être était-ce un péché caché, ou des dettes, ou quelques questions similaires. J'admis que de telles choses existaient. Elle me demanda si j'étais disposée à les régler sur le champ. J'acquiesçais. Elle me demanda alors comment je rendais témoignage et je lui dis que je choisissais des gens au hasard et que je leur parlais du Seigneur, sans me soucier de savoir s'ils manifestaient un quelconque intérêt. À cela, elle répliqua que je devrais plutôt faire une liste et commencer par prier pour mes amis, puis qu'il fallait attendre que Dieu me donne une occasion de leur parler. Je commençai immédiatement à mettre en ordre les questions qui entravaient mon efficacité et dressai aussi une liste de 70 amis pour lesquels je prierais chaque jour. Certains jours, il m'arrivait de prier pour eux à chaque heure, même en classe. Lorsque l'occasion se présentait, j'essayais de les persuader de croire au Seigneur Jésus. Mes camarades disaient souvent en plaisantant « Monsieur le prédicateur arrive, écoutons son sermon », bien qu'en fait, ils n'eussent aucune intention de m'écouter. Je rapportai mon échec à Sœur Grose et elle me persuada de continuer à prier jusqu'au moment où quelques-uns furent sauvés. Avec la grâce de Dieu, je continuai à prier chaque jour et, après plusieurs mois, tous les 70, sauf un, furent sauvés. Je cherchais à être rempli du Saint-Esprit. Quoique quelques-uns eussent été sauvés, je n'étais pas satisfait, vu que beaucoup, tant à l'école que dans la ville, n'étaient pas touchés par l'Évangile. Aussi, je ressentis le besoin d'être rempli du Saint-Esprit et de recevoir la puissance d'en haut. J'allais voir Sœur Monsieur E. Barber, une missionnaire britannique et, comme je manquais beaucoup de maturité spirituelle, je lui demandais s'il était nécessaire d'être rempli du Saint-Esprit pour recevoir sa puissance. Elle répondit « Oui, tu dois te donner à Dieu afin qu'il puisse te remplir de lui-même. » Je répondis que j'avais déjà donné ma vie à Dieu et que j'étais sûre de son salut et de son appel, mais que je ressentais un manque de puissance spirituelle. Elle me raconta alors l'histoire suivante. Frère Prigin était un Américain qui avait précédemment été en Chine. Il étudiait pour obtenir un doctorat en philosophie lorsqu'il sentit que la condition de sa vie spirituelle n'était pas satisfaisante. Il dit à Dieu qu'il avait des périodes de manque de foi, des péchés qu'il ne pouvait surmonter et peu de force pour son travail. Il prit ainsi pendant 2 semaines, demandant à Dieu de le remplir du Saint-Esprit de façon à mener une vie victorieuse. Il sentit que Dieu lui disait « Tiens-tu vraiment à cette vie victorieuse ?» Dans ce cas, ne présente pas ta thèse de doctorat dans 2 mois, car je n'ai pas besoin d'un docteur en philosophie. Il se trouva pris dans un dilemme, car le doctorat en philosophie lui était acquis, et il était perplexe, se demandant pourquoi Dieu lui demandait d'abandonner. Le conflit dura 2 mois, et bien qu'il ait eu l'ambition, depuis 30 ans, d'étudier en vue d'obtenir ce titre, il écrivit finalement au rectorat de l'université, pour notifier qu'il ne présenterait pas sa thèse le lundi suivant. Il était si fatigué cette nuit-là qu'il ne put trouver aucun message pour le jour d'après, aussi raconta-t-il, simplement à l'assemblée l'histoire de sa capitulation devant le Seigneur. Ce jour-là, les 3/4 de l'assemblée connurent un réveil et lui-même fut fort encouragé, disant que s'il avait su quel aurait été le résultat, il se serait soumis à Dieu bien plus tôt. C'était un homme qui, par la suite, fut grandement utilisé par le Seigneur. Pendant que je me trouvais en Angleterre, j'avais l'intention de me rendre aux États-Unis pour rencontrer cet homme, mais je n'en eus pas l'occasion avant sa mort. Lorsque j'entendis ce témoignage pour la première fois, je dis au Seigneur, « Je veux enlever tout ce qui me sépare de Dieu afin d'être rempli du Saint-Esprit. » Entre 1920 et 1922, je confessais mes péchés devant au moins 300 personnes, mais je sentais qu'il y avait encore quelque chose qui me séparait de Dieu et, en dépit de mes efforts répétés, je ne gagnais ni en force ni en efficacité. Test sévère. Je me rappelle qu'un jour, en cherchant un thème pour un message, j'ouvris ma Bible au hasard et tombai sur le passage suivant « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi ?» Je me dis, l'auteur du psaume 73 peut parler ainsi, mais moi, j'en suis bien incapable. La raison provenait de mes liens avec la jeune femme qui, plus tard, devait devenir mon épouse. Je lui parlais du Seigneur, mais elle ne faisait que rire. C'était la seule réponse que je recevais. C'était il y a 10 ans, et je dois reconnaître que je l'aimais, quoiqu'elle ne fût pas chrétienne. Comme de nombreux jeunes gens aujourd'hui, je faisais l'expérience de liens du cœur si forts, qu'ils rivalisaient avec mon obéissance au Seigneur, qui voulait obtenir une place dans ma vie. Je demandais au Seigneur de remettre cette affaire à plus tard. À cette époque, je projetais d'aller annoncer l'Évangile dans cette région désolée qu'est le Tibet, de l'autre côté de la frontière, et je suggérais à Dieu de nombreuses entreprises, espérant qu'il ne soulèverait pas la question de l'abandon de celle que j'aimais. Mais une fois que Dieu eut mis le doigt sur cette affaire, il ne s'en détourna plus, et je constatai que la prière et l'étude ne servaient pas à grand-chose. Le Seigneur voulait que je renonce à moi-même et que je l'aime de tout mon cœur. Je retournai à l'école pour chercher à être rempli du Saint-Esprit et à aimer Christ, mais je dus reconnaître que je ne pouvais toujours pas prononcer avec conviction les paroles du psaume. Le 13 février 1922, finalement, je fus disposé à mettre fin à ces liens et j'éprouvais une grande joie. Le jour de ma conversion, je m'étais débarrassé du fardeau de mes péchés, mais ce n'est qu'en cette seconde occasion que mon cœur fut vidé de tout ce qui pouvait me séparer de Dieu. Dès lors, les gens commencèrent à être sauvés. Ce jour-là, je changeai mes vêtements élégants pour un vêtement plus simple. J'allai à la cuisine, préparai de la colle et un paquet d'affiches d'évangélisation sous le bras. Je sortis dans la rue pour les coller sur des murs et pour distribuer des tracts sur l'Évangile. À l'époque, faire cela à Fuchou, dans la province de Fujian, était un acte de pionnier. À partir du second trimestre de 1922, je priais tous les jours pour mes camarades de classe dont les noms étaient inscrits dans mon carnet et beaucoup furent sauvés. L'année suivante, il nous fallut emprunter ou louer des locaux pour nos réunions et plusieurs centaines de personnes furent sauvées, y compris ceux dont les noms figuraient dans mon carnet, sauf un. De telles choses prouvent que Dieu nous écoute lorsque nous prions pour que des pécheurs soient sauvés. J'apprends à me soumettre. À l'époque, notre groupe comprenait 7 collaborateurs. Nous avions une réunion tous les vendredis, mais je passais la plupart du temps à discuter avec l'autre conducteur du groupe. Étant jeunes, nous étions fiers de nos propres idées et promptes à critiquer les opinions des autres. Il m'arrivait parfois de me mettre en colère et il m'était difficile d'admettre que j'avais tort. Chaque samedi, j'allais rendre visite à Sir Barber et je me plaignais de l'attitude de l'autre conducteur, lui demandant d'intervenir et de corriger ses erreurs. Elle me réprimanda parce qu'il était de 5 ans mon aîné, l'écriture, me fit-elle remarquer, dit que le plus jeune doit obéir au plus âgé. Je répondis, je ne peux faire cela, un chrétien se doit d'agir de façon raisonnable. Quelquefois, je pleurais le soir, après une dispute le vendredi après-midi. Je retournais la voir, le jour suivant, pour lui faire état de mes griefs, et dans l'espoir qu'elle me justifierait, mais je pleurais à nouveau, en rentrant à la maison le samedi. J'eus souhaité être née quelques années plus tôt. Lors d'un différend, j'avais de bonnes raisons de croire en la pertinence de mes arguments, et je pensais que, si je lui faisais remarquer comment mon collaborateur s'était trompé, je gagnerais certainement. Elle dit que ton collaborateur, est tort ou non, est une toute autre question. Maintenant que tu accuses ton frère devant moi, je dois te demander, es-tu celui qui porte la croix ou l'agneau? J'étais honteux d'être interrogé de la sorte et je ne l'oublierai jamais. Avec mes paroles et mon attitude, ce jour-là, je n'étais sûrement ni une personne qui porte sa croix ni un agneau. De cette manière, j'appris à me soumettre à mon collaborateur plus âgé. Je dirais que, pendant ces 18 mois, j'appris la leçon la plus précieuse de ma vie. Ma tête était remplie de caprices, mais Dieu voulait me faire entrer dans la réalité spirituelle. Je réalisais ce que signifie porter sa croix aujourd'hui. En 1936, j'ai plus de 50 collaborateurs. Si je n'avais pas, pendant ce temps, appris la leçon de la soumission, je crains qu'il ne m'ait été impossible de travailler avec qui que ce soit. C'est Dieu qui me mit dans de telles circonstances, de manière à ce que je sois sous la limitation du Saint-Esprit. Pendant 18 mois, je n'eus pas l'occasion d'émettre mes propositions et je ne pouvais que pleurer et souffrir cruellement. Si je n'étais pas passé par de telles circonstances, je n'aurais jamais compris combien j'étais difficile à traiter. Dieu enlevait les angles aigus de ma personnalité, de sorte que je peux dire aujourd'hui à des collaborateurs plus jeunes que la caractéristique, par excellence du service de Dieu, est un esprit de douceur, d'humilité et de paix. L'ambition, le dessein et le talent n'ont que peu de valeur si l'on ne porte pas la croix de Christ. Je suis passé par là, de sorte que je ne peux que confesser mes erreurs. Tout ce qui m'appartient est entre les mains de Dieu. La question n'est pas de savoir si une chose est juste ou fausse, mais si l'on est comme le porteur de la croix ou non. Dans l'Église, il n'y a pas de place pour le juste ou le faux, la seule chose qui comptait le fait de porter la croix et d'accepter qu'elle nous brise. C'est cela qui y entraînera l'abondance de la vie de Dieu et l'accomplissement de sa volonté. Durant cette période de 18 mois, j'appris, par cette expérience continue, à me soumettre à mon frère plus âgé. Ma tête fourmillait d'idées, mais je réalisais, en définitive, que ce n'était pas là la manière de porter la croix ou d'être semblable à l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, en 1936, nous avons plus de 50 collaborateurs et mon aptitude à travailler côte à côte avec eux est due, dans une large mesure, aux expériences de ces premières années. La leçon de la croix est le commencement du réveil. Je considère Whitmaine comme un don unique donné par la tête à son corps. Je le respecte pleinement comme un tel don. Les révélations de Christ, de l'Église, de l'Esprit et de la vie que j'ai vues à travers Whitmaine, les infusions de vie que j'ai reçues de lui et les choses concernant l'œuvre et l'Église que j'ai apprises de lui nécessitent l'éternité pour que leur vraie valeur soit estimée. Witness Lee. Deuxième témoignage. La leçon de la croix. Il se peut qu'un croyant soit en mesure de lire la doctrine concernant la croix, de l'étudier ou de l'expliquer, mais il ne reçoit pas nécessairement la leçon de la croix et ne connaît pas réellement la croix, proprement dite pour autant. Tandis qu'en vue du service, je passais par le traitement de mon tempérament, en compagnie de mes collaborateurs, le Seigneur ordonna de nombreuses croix pour moi. Je trouvais qu'il était difficile d'obéir, cependant, je savais intérieurement que si la croix m'était ordonnée par le Seigneur, il convenait d'obéir et de l'accepter, quelle qu'en soit la difficulté. Alors qu'il était sur terre, le Seigneur a pris l'obéissance par les choses qu'il souffrit. Hébreux 5, 8. Philippiens 2, 8. Comment pouvais-je faire exception? Lorsque je commençais à apprendre à recevoir la leçon de la croix, je n'obéis pas pendant les 8 ou 9 premiers mois, Bien que j'ai su qu'il était de mon devoir de me soumettre à la croix qui m'était ordonnée par le Seigneur. Enfin, je me décidai à obéir, mais cette décision ne dura guère. Lorsque survenait une situation réclamant mon obéissance, j'avais des difficultés à me soumettre et j'étais rempli de pensées rebelles qui me mettaient très mal à l'aise. Depuis, j'ai dû reconnaître que la croix que le Seigneur avait ordonnée pour moi fut véritablement profitable. 5 de mes collaborateurs avaient été mes camarades de classe depuis l'enfance, tandis que l'un d'eux, celui qui avait 5 ans de plus que moi, venait d'une autre région. Les 5 étaient toujours de son côté, contre moi, en tout cas, ils me condamnaient invariablement, disant que j'avais tort. Beaucoup de choses que j'avais accomplies leur étaient attribuées. Quelquefois, lorsqu'ils rejetaient mes opinions, je grimpais sur une colline toute proche pour pleurer devant Dieu. Pour la première fois, j'expérimentais ce que signifie la communion de ses souffrances, Philippiens 3, 10, car si je ne pouvais avoir de la communion avec le monde, je pouvais jouir de la communion céleste. 2 années après mon salut, je ne savais toujours pas ce qu'était la croix et je commençais alors à en apprendre la leçon. À l'école en général et dans ma classe en particulier, j'étais toujours classé premier. Je voulais aussi être le premier dans les affaires, ayant trait au service de Dieu et, par conséquent, lorsque j'étais classé second, je désobéissais. Tous les jours, je disais à Dieu que c'en était trop pour moi, que je recevais trop peu d'honneur et d'autorité, et que tout c'était du côté de ses collaborateurs plus âgés. Aujourd'hui, je peux remercier Dieu du fond du cœur et l'adorer pour tout ce qui est arrivé, car cela fut pour moi le meilleur des apprentissages. Dieu me fit rencontrer beaucoup de difficultés parce qu'il voulait que j'apprenne à obéir, et ainsi, je lui dis que j'acceptais de n'être que le deuxième. Une fois disposé à céder, je connus une joie qui était différente de celle que j'y avais connue lors de mon salut, en ce sens que c'était une joie plutôt profonde qu'étendue. À maintes reprises, durant les 8 ou 9 mois qui suivirent, je fus disposé à être brisé et à renoncer aux choses que je voulais faire, de sorte que je fus rempli de joie et de paix sur mon chemin spirituel. Le Seigneur s'était soumis à la main de Dieu et j'étais désireux de faire la même chose. Le Seigneur, existant en forme de Dieu, n'avait point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, Philippiens 2, 6. Comment avais-je pu oser me placer au-dessus de notre Seigneur? Lorsque je commençais à apprendre l'obéissance, cela fut difficile au début, mais par la suite, je trouvais cela de plus en plus facile, de sorte que je pus dire plus tard à Dieu que je choisissais la croix, que j'acceptais son œuvre de brisement et mettais de côté mes propres idées. Dieu me guide dans mon travail. Lorsque l'œuvre de Dieu commença en divers endroits de Chine, en 1921, certaines vérités n'avaient pas été discernées de façon claire. La grâce et la loi, par exemple, n'étaient pas clairement définies, pas plus que n'étaient clairement différenciées le royaume des cieux et la vie éternelle, la grâce et la récompense, le salut et la victoire. La compréhension des vérités dans le Seigneur n'était ni suffisamment profonde, ni suffisamment riche. Toutefois, l'évangile de la grâce était relativement bien compris et il était annoncé clairement à l'époque où Monsieur Wang Mingtao se trouvait à Techau, les sœurs Pierre Yvang et Ruth Li à Nankin et quelques autres collaborateurs et moi-même à Fuchou. Vers la fin de 1922, alors que des personnes avaient déjà été sauvées à Fuchou et que leur nombre s'accroissait, je sentis la nécessité de publier une revue. À l'époque, j'étais sans ressources. Après avoir prié pendant 1 semaine, 2 semaines, puis pendant plus d'un mois, nous étions toujours sans le sou. Un matin, je me levai et dis, « Il n'est pas nécessaire de prier davantage, c'est un manque de foi. Ce que nous devrions faire maintenant, c'est commencer à écrire. Est-ce que Dieu va mettre d'abord l'argent entre nos mains, puis attendre que nous écrivions ? À partir de maintenant, je ne prierai plus pour l'argent, mais je me mettrai à rédiger les premiers feuillets. » Lorsque le dernier mot fut copié et que tout fut prêt, je dis « l'argent va venir ». Enfin, je m'agenouillai pour prier à nouveau et dis à Dieu « ô Dieu, les épreuves sont prêtes pour l'impression, mais il n'y a toujours pas d'argent ». Après avoir prié, j'étais absolument sûr que Dieu nous fournirait l'argent, aussi nous commençâmes à le louer. C'était merveilleux. Dès que nous nous relevâmes, quelqu'un frappa à la porte. Je pensais que ce devait être quelqu'un qui apportait de l'argent. Je fus surpris de voir que le visiteur était une sœur aisée mais avare et pensait qu'avec elle il n'y aurait pas d'argent. Mais elle me dit, Je suis venu pour discuter avec toi d'une question extrêmement importante. Je répondis, je t'écoute. Elle demanda, combien un chrétien devrait-il donner? Je lui dis que nous ne devrions pas adopter la méthode de l'Ancien Testament, savoir de donner la dîme, mais que nous devrions suivre ce qui est dit dans 2 Corinthiens 9, 7, que chaque personne doit donner selon l'ordre de Dieu, elle peut donner une moitié, un tiers, un dixième ou un vingtième. Elle demanda où le don devait être remis, et je répondis, ne donne pas à une église qui s'oppose au Seigneur, ni à ceux qui ne croient pas à la Bible, pas plus qu'à ceux qui ne croient pas à la rédemption par le sang de notre Seigneur. Si personne ne les aide, ils ne pourront pas continuer à prêcher. Prie avant de donner, que ce soit aux pauvres ou pour quelque cause qui en vaille la peine, mais ne donne jamais à une organisation qui ne soit pas appropriée. Elle dit, le Seigneur me dit depuis quelque temps, tu es trop attaché à l'argent. De prime abord, je ne pouvais m'y résigner, mais maintenant je le puis. Lorsque j'étais en train de prier, ce matin, le Seigneur m'a dit « Tu n'as pas besoin de prier. Il faut que tu commences par donner ton argent. » J'étais plutôt gênée, mais je te remets ici 30 dollars à utiliser pour l'œuvre du Seigneur. Cette somme était juste suffisante pour imprimer 1400 exemplaires de la revue Le Présent Témoignage. Par la suite, quelqu'un nous donnait 30 dollars, ce qui nous permit de couvrir le port et les autres frais. C'est ainsi que fut publié le premier numéro du Présent Témoignage. Le commencement d'un réveil. Au début de 1923, nous commençâmes à tenir les réunions dans un bâtiment appartenant à l'un des frères de Fuchou. Les chaises étaient empruntées à différents endroits, selon les besoins, et nous allions dans le voisinage, invitant les gens à venir écouter. Notre méthode pour inviter les gens était plutôt efficace. Chaque frère portait une sorte de chasuble avec des inscriptions telles que « Tu mourras » et « Jésus sauve » devant et derrière. Bannière en main et en chantant des cantiques, nous faisions un cortège dans les rues. Les spectateurs étaient étonnés. C'était la façon dont nous attirions beaucoup de gens à nos réunions. Nous marchions tous les jours de la même façon et tous les jours des gens venaient écouter l'Évangile. Ils remplissaient la salle, la cuisine et même l'air autour du bâtiment. Comme le Seigneur avait déjà commencé à œuvrer en ce lieu, beaucoup de personnes furent sauvées. Nous avions loué un certain nombre de chaises pour nos réunions, mais au bout de 2 semaines, nous n'avions plus d'argent. Il fallait retourner les chaises au propriétaire. Fallait-il interrompre les réunions? J'annonçai que celui qui désirait assister à la réunion devait, à l'avenir, apporter sa propre chaise. Cet après-midi-là, toute la colline de Zanchien, fut le théâtre d'un curieux manège jeune et vieux, garçons et filles, portés des chaises. Les policiers étaient fort étonnés en voyant cela. Grâce soit rendue à Dieu. Plusieurs centaines de personnes furent sauvées. À cette occasion, le fondement du salut fut clairement posé. Jusqu'alors, beaucoup de croyants, en Chine, n'avaient pas une idée claire de ce qu'est le salut. Ce fut grâce à ces réunions et à la prédication de nos frères en divers lieux que beaucoup, depuis, comprirent ce qu'il est réellement. Nous commençons à louer des locaux pour les réunions. Environ un mois après que nous eûmes commencé nos réunions, un certain nombre d'entre nous furent d'avis que nous devrions avoir un endroit approprié pour nos réunions. Comme nous manquions d'argent, louer des locaux était une chose au-dessus de nos moyens. Toutefois, une famille du nom de Ho, dont tous les membres étaient sauvés, me fit savoir qu'elle était disposée à nous louer des locaux, moyennant un loyer mensuel de 9 dollars seulement. Je revins voir les frères et priai avec plusieurs d'entre eux pour demander à Dieu de nous envoyer de l'argent, étant donné qu'il nous fallait payer à l'avance les 3 premiers mois, lors de l'emménagement. Chaque samedi, je me rendais à Makiyang, Fuchou, pour avoir de la communion avec Sœur Barber, une missionnaire qui venait d'Angleterre. Lorsque je la vis, cette fois, elle me dit « Voici 27 dollars qu'un ami m'a demandé de te remettre pour ton œuvre. » Comme le loyer était de 9 dollars par mois, soit 27 dollars pour 3 mois, cette somme était exactement ce qu'il fallait, ni trop, ni trop peu. À mon retour, je payais sans hésiter les 3 mois de loyer d'avance. Par la suite, nous priâmes inlassablement et le Seigneur pourvu à nos besoins. Tels furent les débuts de notre travail à Fuchou. Le réveil de nombreux croyants. Je n'ai jamais vu un réveil aussi grand que celui-là. En ce temps-là, des personnes étaient sauvées tous les jours? C'était comme si toute personne qui nous contactait était aussitôt sauvée. J'étudiais à cette époque au Trinity College de Fuchu. Lorsque j'arrivais à l'école, chaque matin à 5 heures, je voyais partout des gens qui lisaient la Bible, plus d'une centaine. Il avait été très en vogue de lire des romans, mais à présent, ceux qui voulaient le faire ne le pouvaient plus qu'en cachette. En revanche, lire la Bible devenait une chose très populaire et très honorable. Il y avait 8 classes dans notre école, chacune ayant un surveillant et son adjoint. Chose étonnante, le surveillant de presque chaque classe avait été sauvé. Même les athlètes les plus célèbres avaient tous été sauvés, parmi eux se trouvait frère Kwang Yi-wek, qui fut, pendant de nombreuses années, le champion de tennis de la province de Fujian. Plus de 60 personnes marchaient chaque jour en procession dans les rues, portant des bannières, et quelques douzaines allaient chaque jour dans les alentours distribuer des tracts. Toute la ville de Fuchu, environ 100 000 habitants, était secouée. Sous la direction du Saint-Esprit, nous commençâmes alors à avoir des réunions et, comme de plus en plus de personnes étaient sauvées, notre œuvre s'étendait aux villages avoisinants. Un nouveau commencement. Entre 1921 et 1923, il y avait des réunions de réveil en différents endroits, et beaucoup pensaient que, puisque ces réunions amenaient des gens au Seigneur, elles devaient être considérées comme les seules nécessaires. Mais Dieu m'amena à voir que son dessein requiert des chrétiens qu'ils se tiennent sur le terrain de l'unité dans des églises locales pour représenter l'église de Dieu sur terre et maintenir le témoignage de Dieu ici-bas. Cependant, certains collaborateurs avaient des points de vue différents quant à la vérité concernant l'Église. Lorsque j'étudiais les Actes des Apôtres, je vis que le désir de Dieu est d'établir des églises locales dans chaque ville. C'était comme si une lumière brillait soudain sur moi et je compris son dessein. Avec cette révélation surgit un problème du fait que quelques collaborateurs qui n'avaient pas vu cette lumière avaient des opinions différentes concernant des points importants de notre travail. Ceci entraîna des frictions parmi nous. Ils pensaient que nous devions être enthousiastes dans notre œuvre de réveil et d'évangélisation, et qu'au moins, l'on pouvait voir clairement les résultats d'un tel travail, alors que je sentais fortement qu'il fallait établir des églises locales, en insistant moins sur notre travail. Lorsque le frère plus âgé partait organiser ailleurs des réunions d'évangélisation, je pensais secrètement organiser d'autres réunions de réveil et d'évangélisation, indépendamment de lui. Lorsqu'il était absent, j'agissais immédiatement conformément à la vision que j'avais reçue. À son retour, il s'empressait d'annuler ce que j'avais fait et agissait comme il le pensait. Mais lorsqu'il s'absentait de nouveau, je revenais à ma première idée. En conséquence, il y avait tout le temps entre nous des changements et des retours en arrière. Comme la lumière que chacun de nous avait reçue concernant notre travail était différente, telles devinrent également nos manières de travailler. L'une était d'organiser des réunions de réveil et d'évangélisation, l'autre, d'établir des églises locales. Ce que le Seigneur m'avait révélé était extrêmement clair avant peu, il susciterait des églises locales en différentes parties de Chine. Chaque fois que je fermais les yeux, la vision de la naissance d'églises locales apparaissait devant mes yeux intérieurs. Hein? En 1924, quelques collaborateurs n'étaient pas satisfaits de moi et Dieu permit que l'église à Fuchu fut mise soudainement à l'épreuve. Afin de prévenir une scission, je quittai alors Fuchu. Puis vint une invitation, en provenance des îles de la mer du Sud, je m'y rendis et des réunions débutèrent là aussi. En mai 1925, je rentrai et louai des locaux à Pagoda, dans la province de Fuchu, un petit village près de la mer, dans le but de m'y installer. Je sentis alors que nous devions publier une revue qui insiste sur les vérités concernant le salut et l'Église, abordant aussi ce qui a trait aux prophéties et aux préfigurations. Mon intention première était que cette revue, intitulée la Revue chrétienne, n'eût qu'un caractère temporaire. En 1925, deux numéros furent publiés, en 1926, 10 en raison d'une demande continuelle, 12 en 1927. Durant les 6 premiers mois de 1926, je me rendis à Amouaï, que l'on sut, CH'Fangshu est un gant pour lui rendre témoignage et beaucoup de personnes furent sauvées. Dans la seconde moitié de l'année, j'y retournais. Cette fois, je me sentais très fatiguée, devant à la fois organiser des réunions, écrire des articles et m'occuper en outre de la correspondance. J'étais déjà légèrement souffrant. À l'origine, il était prévu que je préside des réunions pendant 10 jours, mais le 9e jour, je tombais malade. Un autre collaborateur vint poursuivre pendant plusieurs jours la tâche entreprise. Ce fut au cours de ces 6 derniers mois de 1926 que l'œuvre commença dans le sud de Fukien avec des réunions à Amouaï, Tingan et dans les régions environnantes. Plusieurs médecins me dirent que la maladie que j'avais contractée pendant que j'étais à Amouaï était probablement fatale et que je ne pouvais plus guère espérer vivre que quelques mois. Je n'avais pas peur de la mort, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que le Seigneur m'avait enseigné les années précédentes et aux leçons que j'avais apprises, rien de cela n'avait encore été mis par écrit. Assurément, tout cela ne devait pas disparaître avec moi dans la tombe. Je me préparais à écrire l'homme spirituel. Lorsque j'arrivais à Nankin, j'appris qu'un certain nombre de frères et sœurs qui se tenaient sur le terrain de l'unité dans l'église locale s'assemblaient pour rompre le pain, aussi j'allais naturellement les trouver et me joignis à eux pour nous souvenir du Seigneur. Frère Kwang Yiweg, l'un de mes camarades de classe, faisait alors ses études à l'université de Nankin. Introduit par lui, j'allais à l'université pour donner plusieurs messages, gagnant en même temps deux frères qui se joignirent à nous pour la table du Seigneur. Tel fut le début de notre travail à Nankin. Je viens à Shanghai. Pour pouvoir me consacrer entièrement à la rédaction de l'homme spirituel, je ne tardais pas à quitter Nankin et j'allais à la campagne, à Vui, où j'écrivis les 4 premières parties. On se battait dans Nankin en mars 1927 et, comme il était impossible de communiquer avec les frères et sœurs de certaines localités, je quittais la campagne pour me rendre à Shanghai. En arrivant, j'appris que de nombreux frères et sœurs étaient arrivés, les uns après les autres, de différents endroits. Avant mon arrivée à Shanghai, il y avait eu des réunions dans la maison de sœur Pirlwang, au jardin de Hun, où l'on rompait le pain. Lorsque nous fûmes tous arrivés, notre lieu de réunion fut transféré à la rue El Kangxing. Ce furent les débuts à Shanghai du Gospel Book Room. Vers la fin de 1927, nous avions chaque jour une réunion de prière. Les croyants de Haerpin et des environs, au nord du fleuve Yangtze-Kiang, qui avaient été aidés par nos écrits, commencèrent à nous écrire, réalisant qu'ils étaient prêts à recevoir un enseignement et que les croyants en Chine en éprouvaient le besoin, nous envisageâmes d'organiser une réunion spéciale pour eux. En janvier 1928, nous louâmes des locaux dans la ruelle 20, rue Ardoun, à Shanghai, et le 1er février, nous commençâmes la réunion spéciale. Le thème central des messages était uniquement le dessein éternel de Dieu et la victoire de Christ. Nous n'abordâmes pas d'autres questions comme la vérité concernant l'Église. Il y avait 20 ou 30 frères et sœurs venus d'autres endroits. Dieu les éclaira et leur permit de voir comment ils devaient marcher en suivant le chemin de la vie. Ils résolurent pour eux-mêmes des problèmes tels que le baptême, l'abandon des dénominations et d'autres choses similaires. Dans les 4 années qui précédèrent 1936, 700 ou 800 frères et sœurs furent sauvés ou réveillés dans quelques 10 lieux de réunion au nord du fleuve Yangtze-Kiang. Dans un nombre presque identique de lieux de réunion, à Haerpin, Téchin et leurs environs, quelques 4000 frères et sœurs furent eux aussi sauvés ou réveillés. Toute cette œuvre fut accomplie par le Seigneur lui-même et il avait travaillé pendant des années pour qu'elle puisse avoir lieu. Après notre déménagement à la rue L20 en 1928, il fut décidé que nous continuerions à publier le présent témoignage étant donné que la revue chrétienne avait cessé de paraître. En 1930 était publié le recueil Notes sur l'étude de la Bible. Durant ces quelques années à Shanghai, notre but était d'amener les gens à suivre le Seigneur lui-même, l'enseignement des Écritures et la conduite du Saint-Esprit. Nous n'avons jamais escompté que qui que ce soit se donne à nous, et nous ne devrions jamais l'escompter. Il ne saurait s'agir de la prétendue politique d'exclusion, de même, nous ne prétendons pas être les seuls à avoir raison, notre seul désir est d'être fidèles jusqu'à la fin. J'écrivis l'homme spirituel, alors que j'étais malade. Lorsqu'il fut terminé, mon état de santé s'aggrava et je fus contraint de rester alité pratiquement tout le temps. Étant donné que la demeure terrestre de mon tabernacle était sur le point de tomber à tout moment, rien ne fut accompli durant mes quelques premières années à Shanghai qui vaillent la peine d'être mentionnées. C'est au cours des 2 années suivantes que les choses commencèrent réellement. En 1931, il y eut une nouvelle réunion spéciale dont le message principal porta sur deux thèmes cruciaux le Nouveau Testament et la sagesse de Dieu. À cette réunion, il y avait davantage de frères et sœurs d'autres localités. Dieu me guérit. Au début de ma maladie, en 1924, j'avais seulement un peu de fièvre, je me sentais faible et j'avais une légère douleur dans la poitrine. Je ne savais pas ce que j'avais. Le docteur H.S. Wong me dit « Je sais que vous avez la foi, que Dieu peut vous guérir, mais voulez-vous me permettre de vous examiner afin que je fasse un diagnostic ?» Après m'avoir examiné, il parla à frère Wang Tang Ming à voix basse pendant quelque temps. Lorsque je leur demandai le résultat de l'examen, ils ne me dirent d'abord rien. Je leur dis alors que je n'avais pas peur. Le docteur Wong me dit que l'état de ma tuberculose était si sérieux qu'un repos prolongé était nécessaire. Je ne pus dormir cette nuit-là, je sentais que je ne pouvais me présenter devant le Seigneur si je devais aller à lui sans avoir achevé mon travail. J'étais très déprimée. Je décidai d'aller à la campagne pour me reposer et pour avoir davantage de communion avec le Seigneur. Je lui demandai « Quelle est ta volonté pour moi ?»« Si je dois donner ma vie pour toi, je n'ai pas peur de la mort. » Pendant 6 mois environ, je ne pus voir la volonté du Seigneur, mais il y avait de la joie dans mon cœur et je savais que le Seigneur ne pouvait jamais se tromper. À cette époque, aucune des nombreuses lettres qui me parvinrent de différents lieux ne contenait d'exhortations ou de mots de consolation, mais des reproches pour m'être surmené sans avoir pris suffisamment soin de ma vie. Un frère me fit des reproches en citant Éphésiens 5, 29. Peu après, frère Chen Shikwai, de Nankin, m'écrivit pour m'inviter à aller me reposer chez lui et à l'aider, en même temps, à traduire le programme d'études de l'Institut biblique par correspondance du docteur Si. Schofield. À cette époque, une trentaine de frères et sœurs vinrent me voir pour avoir de la communion avec moi et je leur parlais du problème de l'Église. Je réalisais que la main de Dieu était alors sur moi dans le but bien précis de me ramener à la toute première vision que j'avais eue, sans quoi je n'aurais été qu'un simple prédicateur de réveil. Les jours passaient sans que ma tuberculose ne guérisse. J'étais allé voir un médecin allemand bien connu qui avait fait une radiographie de ma poitrine. Par la suite, lorsque je lui demandais d'en refaire une autre, il me dit que ce n'était pas nécessaire. Il me montra la radiographie d'une autre personne et dit « L'état de cette personne était meilleur que le vôtre, néanmoins elle est morte 2 semaines après que cette radiographie eût été prise. Ne revenez plus me voir, je ne veux pas faire d'argent avec vous. » Je retournai à la maison, très déçu. Je pouvais, il est vrai, m'efforcer d'écrire et d'étudier la Bible, mais je trouvais cela très fatigant. J'avais chaque après-midi une légère fièvre, vrai, la nuit, je transpirais souvent sans pouvoir dormir. Quelques frères me conseillèrent de me reposer davantage, mais je répondis, je crains que je puisse me reposer à un point tel que j'en devienne rouillé. Je sentais que, malgré le peu de temps qu'il me restait à vivre, je devais croire que Dieu augmenterait mes forces et que je devais travailler pour lui. Je demandais alors au Seigneur quel travail il me demandait de terminer. S'il désirait que je fasse quelque chose, je lui demanderais alors d'épargner ma vie, autrement il n'y avait rien sur la terre que je puisse encore désirer. J'avais été, auparavant, en mesure de me lever, mais, à présent, je ne le pouvais plus. Quelqu'un me demanda de conduire une réunion d'évangélisation et je me forçais à me lever, demandant au Seigneur de me fortifier. Tandis que je me rendais à la réunion, je devais me cramponner ici et là, au réverbère pour me reposer. Chaque fois que je le faisais, je disais au Seigneur, « Cela vaut la peine de mourir pour toi. » Certains frères qui le savaient me firent des reproches, parce que je ne ménageais pas ma santé, et à cela je répondis que j'aimais mon Seigneur et que je donnerais ma vie pour lui. Après avoir prié pendant plus d'un mois, je sentis que je devais écrire un livre sur ce que Dieu m'avait appris. Jusque-là, j'avais pensé qu'il ne convenait pas d'écrire un livre avant d'être âgé, mais, étant donné que j'allais bientôt quitter ce monde, le temps me semblait venu de me mettre à écrire, dans mes derniers jours. Je louai donc une petite pièce à Wuxi, dans la province de Jiangsu, dans laquelle je m'enfermai et écrivis à longueur de journée. À cette époque, l'état de ma maladie s'aggravait à tel point que je ne pouvais même plus m'allonger. Pendant que j'écrivais, j'étais assis sur une chaise munie d'un haut dossier et, pour alléger mes douleurs de poitrine, je pressai celle-ci contre le bureau. Satan se mit à me parler, « Tu vas bientôt mourir, Alors pourquoi ne pas mourir confortablement plutôt que dans les douleurs? Je répliquais, le Seigneur me veut comme je suis. Va-t'en. En 4 mois, j'achevais 3 parties de l'homme spirituel. Pendant que j'écrivais, il y avait beaucoup de sang et de sueur et beaucoup de larmes. Chaque fois que je finissais d'écrire, je me disais, c'est mon dernier témoignage pour l'Église. J'écrivais au milieu de toutes sortes de difficultés et d'épreuves, mais je sentais que Dieu était exceptionnellement proche de moi. Les gens pensaient que Dieu me maltraitait. Frère Chen, par exemple, m'écrivit pour me dire « Tu te dépenses à l'extrême, un jour, tu le regretteras. » Je répondis « J'aime mon Seigneur et je dois vivre pour lui. » Pour que l'homme spirituel puisse être publié, il nous fallait environ 4 000 $. Étant sans ressources, je priais Dieu de pourvoir à ce besoin. 4 collaborateurs seulement étaient au courant de cette situation, personne d'autre. Peu de temps après, le Seigneur nous avait fourni 4 000 $ et nous signâmes un contrat avec un imprimeur pour commencer à imprimer le livre. Il fut convenu que si nous ne pouvions faire face au paiement suivant, non seulement nous perdrions la somme versée au comptant, soit 4 000 $, mais que nous devrions en outre payer une certaine somme pour défaut de paiement. C'est pourquoi, d'un commun accord, nous priâmes sérieusement à ce sujet. Lorsque l'imprimeur venait toucher son dû, le Seigneur nous fournissait toujours les moyens de le payer en temps voulu. Voyant que nous étions en mesure de tenir loyalement nos engagements, l'imprimeur disait « Personne n'exécute ses paiements aussi ponctuellement que vous qui faites partie de l'Église. » Après que le livre eut été publié, je priais devant Dieu « Maintenant, laisse ton serviteur partir en paix. » À cette époque, ma maladie empira, je ne pouvais pas dormir en paix, je me réveillais au milieu de la nuit, me retournant sans cesse de côté et d'autre dans mon lit. Je n'avais plus que la peau sur les os. Je transpirais la nuit et ma voix devint rauque. Plusieurs sœurs me veillaient à tour de rôle, l'une d'elles, une ancienne infirmière, pleurait chaque fois qu'elle me voyait. Elle disait « J'ai vu beaucoup de patients, mais je n'en ai jamais rencontré un dont la condition soit aussi pitoyable que la sienne. » Je crains qu'il n'ait plus guère que 3 ou 4 jours à vivre. Lorsque quelqu'un me rapporta cela, je dis que vienne la fin. Je sais moi aussi que je vais mourir prochainement. Un frère envoya un télégramme aux églises de différentes localités, les avisant qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi et qu'il n'était donc plus nécessaire de continuer à prier pour moi. Un jour, je demandai à Dieu « Pourquoi me rappelles-tu si tôt ?» Je confessai alors mes péchés à Dieu. En même temps, je lui dis que je n'avais pas de foi. Ce jour-là, je me consacrai au jeûne et à la prière depuis le matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi, disant à Dieu que je ne ferais rien d'autre que ce qu'il voudrait. Au même moment, des collaborateurs étaient ensemble en train de prier avec ferveur pour moi dans la maison de Ruth Lee. Lorsque je demandai à Dieu de m'accorder la foi, il me donna cette parole que je n'oublierai jamais. La première phrase était « Le juste vivra par la foi », Romains 1, 17, la deuxième, « Car vous êtes ferme dans la foi », 2 Corinthiens 1, 24, et la troisième, « Car nous marchons par la foi », 2 Corinthiens 5, 7. Ces mots me remplirent de joie parce que la Bible dit « Tout est possible à celui qui croit », Marc 9, 23. Alors je remerciais Dieu et le louais de ce qu'il m'ait donné sa parole, je crus que Dieu m'avait guéri. Je fus mis à l'épreuve sur le champ parce que la Bible dit « Car vous êtes ferme dans la foi », 2 Corinthiens 1, 24, « Pourtant, j'étais toujours couché. » À ce moment-là, un conflit s'éleva en moi. Devais-je me lever et me tenir debout ou bien rester allongé? Après tout, l'homme s'aime lui-même considérant qu'il est plus confortable de mourir dans un lit que de mourir debout. La parole de Dieu manifesta sa puissance et ignorant tout le reste, je mis des vêtements que je n'avais plus portés depuis 176 jours. J'étais prêt à quitter mon lit et à me tenir debout lorsque je commençais à transpirer abondamment comme si j'avais été trempé par la pluie. Satan me parla à nouveau. « Pourquoi essaies-tu de te tenir debout alors que tu ne peux même pas t'asseoir ?» Je lui dis « Dieu me dit de me tenir debout » et je me levai. À nouveau baigné d'une sueur froide, je faillis tomber. Je ne cessais de répéter « être ferme par la foi ». Je dus alors marcher pour atteindre mon pantalon et mes chaussettes. Après les avoir mis, je m'assis. À peine m'étais-je assis que la parole de Dieu me revint, disant que je devais non seulement tenir ferme par la foi, mais encore marcher par elle. J'étais conscient de ce qu'être capable de me lever et de marcher quelques pas pour aller chercher mon pantalon et mes chaussettes était une chose merveilleuse en soi. Comment pouvais-je espérer marcher à nouveau? Je demandai à Dieu, « Où veux-tu que j'aille ?» Dieu répondit, « Va à la maison de Sœur Lee, N215. » C'est là qu'un certain nombre de frères et sœurs avaient jeûné et prié au sujet de ma maladie pendant 2 ou 3 jours. Je pensais qu'il était peut-être possible de marcher un peu à l'intérieur d'une pièce, mais comment pouvais-je descendre les escaliers? Je priais Dieu, « Ô Dieu, je peux tenir ferme par la foi et, par la foi, je serai aussi capable de descendre les escaliers. » J'allai immédiatement à la porte qui menait à l'escalier et l'ouvris. Franchement, je peux vous dire que lorsque je me trouvais en haut de l'escalier, il me sembla que c'était le plus grand escalier que j'ai jamais vu de ma vie. Je dis à Dieu, « Puisque tu m'as dit de marcher, je le ferai, même si je dois en mourir. » Seigneur, je ne peux pas marcher, je t'en prie, soutiens-moi dans ma marche avec ta main. Me tenant à la rampe, je descendis marche par marche, à nouveau baigné d'une sueur froide. Tandis que je descendais, je disais à haute voix, « Marchez par la foi », et à chaque pas je priais, « Ô Seigneur, c'est toi qui me permets de marcher ». Tandis que je descendais les 25 marches, il me semblait que je marchais main dans la main, avec le Seigneur dans la foi. En atteignant le bas de l'escalier, je me sentis fort et me dirigeai rapidement vers la porte de derrière. Ouvrant la porte, je marchais directement en direction de la maison de Sœur Lee. Je dis alors au Seigneur, « À partir de maintenant, je vivrai par la foi et ne serai pas contraint plus longtemps à garder le lit. » Je frappai à la porte, comme le fit Pierre sans rod pour ouvrir la porte, voir acte 12:12-17, et lorsque j'entrai, 7 ou 8 frères et sœurs me contemplèrent, interdits, pétrifiés. Puis chacun resta calmement assis, pendant 1 heure, comme si Dieu était apparu parmi les hommes. J'étais assis là, moi aussi, rempli de remerciements et de louanges. Je racontai alors tout ce qui s'était passé au cours de ma guérison. Exultant et revigoré en esprit, nous louâmes tous à voix haute l'œuvre merveilleuse de Dieu. Ce jour-là, nous prîmes une voiture pour aller à Kianguan, en banlieue, pour rendre visite à Sœur Dora Yu, une évangéliste célèbre. Elle eut un choc en me voyant, car elle avait reçu récemment des nouvelles annonçant ma mort imminente. Aussi, lorsque j'apparus, me regarda-t-elle comme si j'étais ressuscité des morts. Ce fut dans l'allégresse une nouvelle occasion d'action de grâce et de louange à Dieu. Le dimanche suivant, je parlais pendant 3 heures sur l'estrade. Il y a environ 4 ans, vers 1932, je lus dans un journal une annonce de vente aux enchères d'un immeuble, de meubles et de divers effets, ayant appartenu au fameux docteur allemand qui m'avait fait les radiographies et qui était à présent décédé. Je levai les mains pour louer le Seigneur en disant, « Malheureusement, ce docteur s'en est allé, mais grâce te soit rendue, Seigneur, de ce que tu m'aies gardé en vie jusqu'à maintenant. » Couvert par son sang, je dis, ce docteur qui était plus fort que moi est décédé, mais j'ai été guéri par toi, Seigneur, et je suis toujours en vie. Ce jour-là, j'achetai bon nombre de choses en souvenir. Direction pour l'œuvre. Entre le moment où je fus cloué au lit par la maladie et le moment où je fus guéri par Dieu, je vis plus clairement l'œuvre que Dieu voulait que je fasse. Celle-ci comprend les 4 aspects suivants. 1. Travail de littérature. Avant ma maladie, outre les visites que je faisais en différentes localités, pour y conduire des réunions exceptionnelles, j'avais aussi la grande ambition d'écrire un bon commentaire détaillé et complet de la Bible. J'avais l'intention de consacrer beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'argent à écrire un ouvrage qui comprendrait environ 100 volumes. Après avoir terminé l'homme spirituel, qui avait été commencé alors que je tombais malade à Nankin, je réalisais que cette tâche d'expliquer l'écriture n'était pas pour moi. Depuis lors, toutefois, j'ai souvent été tenté dans ce domaine. Après ma maladie, Dieu me fit savoir que l'objectif principal des messages qu'il me communiquait n'était pas d'expliquer l'écriture, ni de prêcher l'évangile ordinaire, ni de prophétiser, mais de mettre l'accent sur la manière vivante de vivre. Je sentis alors que je devais reprendre la publication de la revue Le Présent Témoignage afin d'aider les enfants de Dieu dans leur vie et leur lutte spirituelle. À chaque âge correspond une vérité particulière qui lui est spécialement nécessaire. Pour nous qui vivons dans les derniers jours, il doit aussi y avoir une vérité dont nous avons particulièrement besoin. Au moyen de la revue Le Présent Témoignage, le témoignage pour la vérité de l'âge présent était né. Je suis profondément convaincu que le temps présent est la période préparatoire. Les enfants de Dieu seront moissonnés, mais il faut d'abord qu'ils mûrissent. Marc 4, 29. Le temps où nous devons être moissonnés est arrivé, la question de savoir si l'Église est prête ou non est d'une importance vitale. Le dessein de Dieu aujourd'hui est de hâter l'édification du corps de son Fils qui est l'Église. Comme il est dit dans l'Écriture, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, Éphésiens 5, 26-27, de sorte que l'ennemi puisse être détruit rapidement et que le royaume soit établi. J'espère humblement pouvoir, dans la main du Seigneur, prendre une petite part à cette œuvre glorieuse. Tout ce que j'ai écrit n'a qu'un but, que le lecteur, dans la nouvelle création, se donne entièrement à Dieu et devienne une personne utile entre ses mains. À présent, c'est de tout cœur que je remets à Dieu mes écrits, mes lecteurs et moi-même, car Dieu protège les hommes pour toujours. J'espère que son esprit me guidera dans toute sévérité. 2. Réunion pour les vainqueurs. Dieu ouvrit mes yeux sur la nécessité de susciter, dans les églises de différentes localités, un certain nombre de personnes victorieuses, pour qu'elles deviennent ses témoins. Dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, le Seigneur lance un appel à vaincre. C'est pourquoi, chaque année, il y avait une réunion à l'intention des vainqueurs, au cours de laquelle je rapportais fidèlement les messages que Dieu m'avait révélés. 3. Édification d'églises locales. En m'appelant à son service, le Seigneur ne projetait aucunement de me voir organiser des réunions de réveil pour que les gens entendent davantage de doctrine, ayant trait à l'Écriture, il ne voulait pas non plus que je devienne un grand évangéliste. Le Seigneur me révéla qu'il voulait édifier des églises locales dans d'autres localités pour se manifester lui-même, pour rendre témoignage de l'unité sur le terrain des églises locales, de sorte que chaque saint puisse accomplir sa tâche au sein de l'Église et vivre la vie de l'Église. Dieu ne veut pas simplement que l'on poursuive individuellement la victoire ou la spiritualité. Il désire obtenir une Église corporative et glorieuse qui puisse paraître devant lui. 4. Entraînement pour les jeunes. Si le retour du Seigneur est retardé, il sera nécessaire de susciter un certain nombre de jeunes qui perpétuent le témoignage et œuvrent pour la génération suivante. De nombreux collaborateurs ont déjà prié à ce sujet dans l'espoir de trouver un endroit approprié à l'entraînement des jeunes. Mon idée n'est pas d'établir un séminaire ou un institut d'études de la Bible, mais que les jeunes gens vivent une vie corporative et pratiquent la vie spirituelle, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un entraînement en vue de l'édification, qu'ils apprennent à lire l'Écriture et à prier afin de se forger un bon caractère et, du côté négatif, qu'ils apprennent comment se comporter à l'égard du péché, du monde, de la chair, de la vie naturelle, et ainsi de suite. Au moment opportun, ils retourneront dans leurs églises respectives pour être mêlés aux autres saints, en vue de servir le Seigneur dans l'Église. J'ai acheté quelques 10 arts de terrain à Changju, dans la banlieue de Shanghai. Les plans de construction sont en cours et bientôt les jeunes pourront s'y rendre pour y être entraînés. À l'avenir, mon fardeau et ma tâche comprendront généralement ces 4 aspects. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Nous n'avons absolument rien en nous-mêmes et, quoique nous ayons accompli quelque chose, nous reconnaissons que nous sommes des serviteurs inutiles. Marche par la foi et attitude envers l'argent. Je considère Whitmaney comme un don unique donné par la tête à son corps. Je le respecte pleinement comme un tel don. Les révélations de Christ, de l'Église, de l'Esprit et de la vie que j'ai vues à travers Whitmaney, les infusions de vie que j'ai reçues de lui et les choses concernant l'œuvre et l'Église que j'ai apprises de lui nécessitent l'éternité pour que leur vraie valeur soit estimée. Witness Lee. Troisième témoignage de Whitmaney, le 20 octobre 1936. Comment vivre par la foi? Attitude envers l'argent. M'attendre à Dieu pour qu'il subvienne aux besoins qu'entraîne le travail de la littérature. Acte 26, 29. Je vis par la foi. Ayant donné 2 témoignages, je n'avais pas l'intention d'en donner de troisième, mais pendant que je priais, il me sembla que le Seigneur voulait que je continue. Ceux qui me connaissent savent que je parle rarement de ce qui me concerne. J'ai souvent remarqué que les gens abusent des témoignages des autres, les considérant comme des nouvelles destinées à être colportées. Il est vrai que certains témoignages ne sont pas suffisamment fondés. Un témoignage tel que celui de l'expérience du troisième ciel qu'a eu Paul n'a pas été révélé aux autres avant que 14 années se soient écoulées. Pour de nombreux témoignages spirituels, il faudrait laisser passer un certain temps avant de les divulguer, mais beaucoup préfèrent le faire après 15 jours. Hein? Affaire concernant l'argent. L'argent peut être un petit ou un grand problème. Lorsque je commençais à servir Dieu, j'étais plutôt inquiet quant à la question de mes moyens de subsistance. Si j'avais été prédicateur d'une dénomination, j'aurais reçu un salaire mensuel fixe, mais étant donné que j'allais suivre la voie du Seigneur, je ne pouvais compter que sur lui pour me soutenir financièrement et ne pouvais dépendre d'aucun salaire fixe. En 1921 et en 1922, très peu de prédicateurs en Chine vivaient en comptant uniquement sur le Seigneur. Il était difficile d'en trouver, ne serait-ce que deux ou trois, du fait que la majorité d'entre eux vivaient d'un salaire. À cette époque, de nombreux prédicateurs n'étaient pas suffisamment audacieux pour consacrer tout leur temps à servir le Seigneur. Ils ne pouvaient s'empêcher de penser à ce qui se produirait s'ils n'avaient pas de riz à manger, étant sans revenu fixe. Je pensais alors, moi aussi, de cette façon. Aujourd'hui, 1936, en Chine, il y a environ 50 frères et sœurs qui ont de la communion avec nous et qui vivent en s'attendant uniquement au Seigneur. Une telle situation est actuellement plus courante qu'elle ne l'était en 1922. Par ailleurs, à l'heure actuelle, les frères et sœurs des différentes localités se soucient davantage des prédicateurs qu'auparavant. Je pense que d'ici 10 ans, les frères et sœurs s'occuperont davantage encore des besoins des serviteurs du Seigneur, ce qui n'était pas aussi courant il y a 10 ans. Je fais part à mes parents de mon désir de vivre par la foi. Après avoir été sauvé, je continue à aller à l'école où je travaillais également pour le Seigneur. Un soir, je parlais à mon père de la question de recevoir son soutien financier. Je lui dis, après avoir prié pendant plusieurs jours, « Je pense qu'il me faut te dire que dorénavant, je ne dépenserai plus ton argent. Je te remercie beaucoup d'avoir dépensé des sommes considérables pour moi, ce qui correspond à ton sentiment du devoir paternel. De même, tu serais en droit de t'attendre à ce que je gagne de l'argent à l'avenir et que je t'ai en retour. Mais il faut que je te dise tout de suite que je veux être prédicateur. Je ne serai donc pas en mesure de te rembourser à l'avenir ni de te payer des intérêts. Quoique je n'ai pas terminé mes études, je dois apprendre à ne dépendre que de Dieu. » Lorsque je fis cette déclaration, il pensa que je plaisantais. Lorsque ma mère me donnait 5 ou 10 dollars de temps à autre, elle écrivait sur le papier qui les enveloppait « Pour frère Neto Chang ». Elle ne me donnait pas d'argent en tant que mère. Lorsque je dis cela, le diable vint me tenter en disant « Une telle action est très dangereuse. Si un jour, tu n'étais plus capable de subvenir à tes besoins, ce serait pour toi une honte que de revenir demander de l'argent à ton père. Tu lui as parlé trop tôt, tu aurais dû attendre de voir quelques progrès dans ton travail, comme un grand nombre de gens sauvés par exemple, avec de nombreux amis pour t'aider, avant de commencer à mener une vie par la foi. Grâce soit rendue à Dieu jamais, depuis que j'ai exprimé ma décision de cesser d'être entretenu par mon père, je n'ai eu à lui demander de l'argent. Je dépends de Dieu pour ma subsistance. À ma connaissance, Sœur Dora Yu était le seul prédicateur à ne pas recevoir de salaire et à dépendre uniquement de Dieu pour vivre. Elle était, spirituellement, ma sœur aînée et nous nous connaissions très bien. Elle avait de nombreux amis chinois et étrangers et son champ de travail était très vaste, étant donné qu'elle prêchait partout. Mais ma situation était exactement à l'opposé et très peu de gens se souciaient de moi, aussi cela me fut-il plutôt difficile. Lorsque je me tournai vers le Seigneur, il me dit « Si tu ne peux vivre par la foi, tu ne peux travailler pour moi. » Je savais que j'avais besoin de la parole vivante et d'une foi vivante pour servir le Dieu vivant. Un jour, alors que je constatais qu'il ne me restait plus que 10 malheureux dollars et qu'ils seraient dépensés sous peu, je me souvins tout à coup de la veuve de Sarepta qui n'avait qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche un roi 17, 12, il n'y avait pas 2 poignées de farine. J'ignore de quelle manière Dieu pourvu à sa subsistance, mais je sais de façon certaine qu'il lui fournit les moyens de vivre. Un jour, en 1922, 2 collaborateurs et moi-même allâmes dans une localité de la province de Fujian pour prêcher, avec l'intention de nous rendre ensuite à un autre endroit. Je n'avais que quelques 4 dollars en poche, ce qui n'était pas assez pour payer 3 billets de bus, mais grâce soit rendue à Dieu, un frère nous donna 3 billets. Une autre fois, à que l'on sut, dans le sud de la province de Fukien, on me vola l'argent que j'avais dans ma poche, de sorte que je n'avais pas les moyens de rentrer à la maison. Nous demeurions chez une certaine personne et prêchions chaque jour dans une petite chapelle. Une fois notre travail terminé, nous étions prêts à partir. Les deux autres collaborateurs avaient suffisamment d'argent pour rentrer à la maison. Chacun de nous dépensait son propre argent, mais moi, je n'en avais pas. Ils dirent que nous partirions le jour suivant. Lorsque j'entendis cela, je fus fort embarrassé, mais je ne voulais pas leur emprunter d'argent. Ce soir-là, je consacrai ma prière à supplier Dieu de me procurer l'argent nécessaire. Personne n'était au courant de la situation. L'après-midi suivant, quelques personnes vinrent parler de la parole, mais je n'étais pas d'humeur à le faire. À ce moment-là, le diable revint me tenter avec l'intention d'ébranler ma foi, mais je tins bon, croyant que Dieu ne me laisserait pas tomber. Je n'étais alors qu'un jeune homme qui venait tout juste de commencer à servir Dieu dans la foi, et je n'avais jamais appris une leçon comme celle-ci. Je continuai à prier ce soir-là, pensant que je devais avoir fait quelque chose de mal. Le diable me dit, « Tu peux demander aux autres collaborateurs d'acheter le billet de bus pour toi et les rembourser lorsque tu atteindras la capitale de la province. » Je n'acceptai pas cette suggestion et continuai à chercher Dieu assidûment. Lorsqu'il fut temps pour nous de partir, je n'avais toujours pas d'argent, mais je fis mes bagages, comme d'habitude, et je louai un pouce. Je me souvins alors de l'histoire d'un frère qui n'avait pas de billet, alors que son train était sur le point de partir. Ce fut à ce moment précis que Dieu ordonna à quelqu'un de lui donner un billet de train. Nous étions tous prêts à partir, et nous montâmes dans 3 pouces. Je pris le dernier. Nous avions à peine fait 50 mètres, lorsqu'un vieil homme surgit derrière nous, portant une longue robe et criant « M. Né, s'il vous plaît, arrêtez-vous. » J'ordonnai au tireur de pouce de faire halte. Après m'avoir donné un paquet de nourriture et une enveloppe, le vieil homme disparut. J'étais si reconnaissant de l'intervention de Dieu que mes yeux s'emplirent de larmes. Lorsque j'ouvris l'enveloppe, j'y trouvai 4 $, juste de quoi payer le billet de bus. Le diable reprit, « Tu vois comme c'est dangereux ?» Je répondis, j'étais un peu inquiet, mais ce n'est en aucune façon dangereux, puisque Dieu a pourvu à mes besoins en temps utile. Lorsque j'arrivai à Mouailles, un autre frère me donna un billet de bus pour le retour. En 1923, frère Kwangi Weg m'invita à prêcher à Tianho, dans le nord de la province de Fukien. Je n'avais alors qu'un peu plus de 10 $ en poche, soit un tiers environ des frais du voyage. Je décidai de partir le vendredi soir. Je ne cessais de prier le mercredi et le jeudi, mais l'argent ne vint pas. Je priais à nouveau le vendredi matin, non seulement l'argent ne venait pas, mais je sentais intérieurement que je devais donner 5 $ à l'un de mes collaborateurs. Je me souvins que le Seigneur dit « Donnez, et il vous sera donné », Luc 6, 38. Je n'avais jamais aimé l'argent auparavant, mais ce jour-là, je l'aimais réellement et trouvais difficile de m'en séparer. Je priais de nouveau le Seigneur, « Ô Seigneur, si tu veux vraiment que je donne ces 5 $, je le ferai, mais intérieurement, je n'étais pas disposé à le faire. » Satan m'avait trompé en m'amenant à penser qu'après avoir prié, je n'aurais pas à donner les 5 $. Ce fut la seule fois de ma vie que je versais des larmes pour de l'argent. Je finis par obéir au Seigneur et je donnai les 5 $ à mon collaborateur. Après avoir donné l'argent, je fus rempli d'une joie céleste. Lorsque ce collaborateur me demanda pourquoi je lui donnais cet argent, je lui dis « Ne me demande pas maintenant, tu sauras plus tard. » Je me préparai à partir le vendredi soir. Je dis à Dieu « 15 $ n'étaient déjà pas suffisants et tu as voulu que je donne 5 $. Ne sera-ce pas encore moins suffisant à présent ?» Je ne savais pas, alors, comment prier. Je décidai donc d'aller tout d'abord à Chuiko en bateau à vapeur, puis à Tianho en canot. Je dépensai peu pour le voyage jusqu'à Chuiko. Lorsque le vapeur fut sur le point d'amarrer, je pensais qu'il ne serait pas bon de prier selon mes propres idées et que le résultat serait meilleur si je m'en abstenais. Je dis alors au Seigneur, « Je ne sais pas comment prier maintenant. S'il te plaît, fais-le pour moi. » J'ajoutai, « Si tu n'as pas l'intention de donner d'argent, commande un bateau avec un prix bas pour moi. » Lorsque j'arrivai à Chuiko, de nombreux propriétaires de canaux vinrent offrir leurs services et l'un d'eux demandait 7 dollars seulement, un tel prix était bien plus bas que je ne l'avais escompté, le prix normal étant de plusieurs fois supérieur à cela. Je demandai à l'homme du bateau pourquoi il demandait si peu et il dit « Ce bateau a été loué par le juge, mais j'ai l'autorisation de prendre un passager à l'arrière, c'est pourquoi je ne m'occupe pas du tarif. Mais il faut que vous apportiez votre nourriture. » À l'origine, j'avais 15 dollars en poche, après avoir donné 5 dollars à mon collaborateur, dépensé quelques dizaines de cents pour le trajet par vapeur, 7 dollars pour le canot plus 1 dollar pour la nourriture, il me restait 1 dollar et 30 cents lorsque j'atteignis Kiao. Grâce soit rendue au Seigneur, car la façon dont il arrange toutes choses est toujours bonne. Après avoir terminé mon travail à Kiao, je devais rentrer à Fuchu, mais un problème surgit à nouveau du fait que je n'avais pas suffisamment d'argent pour le retour. Je décidai de partir le lundi suivant, aussi je n'arrêtais pas de prier jusqu'au samedi, lorsque, ce jour-là, j'eus un sentiment de certitude dans mon cœur. Je me rappelais qu'avant de quitter Fuchu, Dieu avait voulu que je donne 5 dollars à un collaborateur, 5 dollars que j'avais donné à contre-cœur. C'est alors que je lus Luc 6, 38, « Donnez, et il vous sera donné », et que fort de cette phrase, je dis à Dieu, « Puisque tu as dit cela, je te prie de me procurer l'argent nécessaire pour couvrir mes dépenses de voyage, comme tu l'as promis. » Le dimanche soir, un pasteur britannique, Monsieur Philippe, qui était vraiment un frère, sauvé assurément, et aimant le Seigneur, nous invita, frère Wegg et moi, à dîner. Après m'avoir dit que lui-même et son église avaient été largement aidés par mon message, Monsieur Philippe m'offrit de prendre en charge mes dépenses de voyage, et ce, pour la totalité du trajet. Je répondis qu'il y avait déjà quelqu'un qui s'en chargeait, voulant dire Dieu. Il dit alors, « Lorsque vous reviendrez à Kiao, je vous donnerai la dynamique du service de Monsieur Pevilk, un messager de l'Évangile, grandement utilisé par le Seigneur au Japon. » Je sentis que j'avais manqué une bonne occasion, parce que ce dont j'avais alors laissé, moi qui suis un frère âgé, y avoir part. Je vous en prie, ayez, pour cette raison, la bonté d'accepter cette modique somme. Après avoir lu la lettre, je sentis que je devais accepter l'argent, ce que je fis. Cette somme était non seulement suffisante pour payer les frais de mon voyage de retour à Fuchu, mais elle permettait également d'imprimer un numéro du présent témoignage. Lorsque je fus de retour à Fuchu, la femme du collaborateur à qui j'avais donné les 5 dollars me dit « Je crois que lorsque tu étais sur le point de partir, tu n'avais pas suffisamment d'argent pour toi-même. Alors pourquoi as-tu tout à coup donné ces 5 dollars à mon mari ?» Je lui demandai ce qui était arrivé en rapport avec les 5 dollars. Elle répondit « Nous n'avions plus qu'un dollar à la maison le mercredi, et le vendredi, il était dépensé. » Ce jour-là, nous priâmes Dieu toute la journée. Après cela, mon mari éprouva le besoin de faire une promenade. C'est alors qu'il te rencontra et que tu lui remis les 5 dollars. Ils nous permirent de tenir 5 jours, après quoi Dieu subvint à nos besoins par une autre source. Alors, les larmes aux yeux, elle continua « Si tu ne nous avais pas donné les 5 dollars ce jour-là, nous aurions eu faim. Peu importait que nous ayons à souffrir de la faim, mais qu'en aurait-il été, alors, de la promesse de Dieu ?» Lorsque j'entendis son témoignage, je fus rempli de joie, parce que le Seigneur avait œuvré à travers moi pour subvenir à leurs besoins avec les 5 dollars. La parole du Seigneur est fidèle, en vérité, donnée, et il vous sera donné, Luc 6, 38. C'est la meilleure leçon que j'ai apprise dans ma vie. Maintenant, j'ai l'expérience, moins j'ai d'argent dans les mains, et plus Dieu m'en donnera. Cette voie est difficile à suivre ? Il se peut que bien des personnes se sentent, à un moment donné, capables de vivre par la foi, mais lorsque survient une quelconque épreuve, elles tremblent. À moins que vous ne croyiez dans le Dieu vrai et vivant, je ne vous conseille pas de suivre cette voie. Je peux rendre témoignage aujourd'hui que Dieu est un Dieu qui donne. Être approvisionné par le moyen de corbeaux, comme autant d'élis, est encore possible aujourd'hui. Je voudrais vous dire une chose, mais je crains que vous n'éprouviez des difficultés à me croire. Il m'est souvent arrivé que Dieu subvienne à mes besoins alors que j'avais dépensé mon dernier dollar. J'ai 14 ans d'expérience dans ce domaine et, chaque fois, Dieu a voulu la gloire pour lui-même. Dieu a subvenu à tous mes besoins et pas une seule fois il n'y a manqué. Ceux qui donnaient auparavant ne le font plus aujourd'hui. Les gens changent constamment l'un après l'autre. Tout cela n'a aucune importance, car Dieu dans les lieux très hauts est un Dieu vivant qui ne change jamais. Aujourd'hui, dans votre intérêt, je dois mentionner cela de sorte que vous puissiez suivre sans détour la voie d'une vie par la foi. Il y a bien plus de cas que je n'en ai rapporté. Quant à la question d'offrir de l'argent, vous devriez mettre de côté un montant déterminé, que vous donniez une dîme de 10 ou de 50%, que vous mettez entre les mains du Seigneur. Il se peut qu'en elle-même, la veuve qui donna les deux petites pièces l'ait fait à regret, mais elle fut louée par le Seigneur. Nous devrions être des exemples pour les autres. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, parce que Dieu ne nous laissera pas tomber. Nous devrions apprendre à aimer Dieu, à croire en lui et à le servir comme il le mérite. Nous devrions le remercier et le louer par ce qu'inexprimable est sa grâce. Amen. Je m'attends à Dieu pour qu'il nous fournisse l'argent nécessaire à notre travail de littérature. Je commençais à imprimer des tracts sur l'Évangile en 1922. Puisque certaines personnes ne se rendraient jamais à une réunion pour y entendre l'Évangile, l'Évangile devait leur être apporté. Après avoir rédigé les brouillons, je commençais à prier Dieu et lui demandais de nous fournir de l'argent pour couvrir les dépenses d'imprimerie et de distribution. Dieu me dit, « Si tu veux que je réponde à ta prière, il faut d'abord que tu te débarrasses de tous les obstacles. » Le dimanche suivant, je pris comme thème pour mon message, « Enlever tous les obstacles. » À l'époque, beaucoup critiquaient l'épouse de l'un de mes collaborateurs, qui était aussi croyante. Elle se tenait près de la porte lorsque j'entrais pour donner mon message. Je la regardais et, intérieurement, je la critiquais aussi, considérant que la critique des autres à son égard était fondée. Lorsque je sortis après avoir donné mon message, je la saluais de nouveau. Plus tard, lorsque, de nouveau, je suppliais Dieu afin d'obtenir de l'argent pour payer les frais d'imprimerie, lui disant que j'avais enlevé tous les obstacles, il me dit « Quel message as-tu donné ? Tu as critiqué une sœur. C'est là un obstacle à ta prière ? Tu devrais t'en débarrasser et aller voir cette sœur pour lui confesser ta faute. » Je répondis « Il n'est pas nécessaire de confesser aux autres un péché commis en pensée. » Dieu dit « Oui, c'est juste, mais ta situation est différente. » Après quoi j'envisageais de le faire, mais lorsque je me trouvais face à face avec elle, j'hésitais 5 fois, malgré mon désir de lui faire mon aveu. J'étais soucieux quant au fait que, m'ayant admiré tout le temps, elle pourrait à présent me mépriser. Je dis à Dieu, « Tout irait bien si tu me demandais de faire autre chose, mais je ne suis pas disposé à lui avouer ma faute. » Je continuais à prier Dieu pour qu'il me fournisse l'argent de l'impression, mais il ne voulut pas se rendre à mon raisonnement et insista pour que je confesse ma faute. La 6e fois que je rencontrai la sœur en question, par la grâce du Seigneur, je lui confessai mon offense. Avec des larmes, nous confessâmes tous deux nos fautes, puis nous nous pardonnâmes. Nous fûmes remplis de joie et dès lors, l'amour du Seigneur nous réconcilia. Peu de temps après, un postier nous remit une lettre contenant $15. La lettre disait ceci, « J'aime distribuer des tracts sur l'Évangile et me sens dans l'obligation de vous aider à les imprimer. Veuillez accepter ce don, je vous prie. » Dès que j'eus ôté tous les obstacles, Dieu entendit ma prière. Grâce soit rendue au Seigneur. Ce fut ma première expérience où Dieu répondit à mes prières relatives à notre travail d'imprimerie. Nous distribuions alors plus de 1 000 tracts par jour. 2 ou 3 millions d'exemplaires étaient imprimés et distribués annuellement pour approvisionner les différentes églises. Durant les premières années de notre travail littéraire, Dieu répondit toujours à mes prières et subvint à tous nos besoins. Le Seigneur voulut aussi que je publie la revue, le présent témoignage, qui devait être distribué gratuitement. À l'époque, toutes les revues spirituelles que l'on trouvait en Chine étaient vendues, et seules celles que je publiais étaient gratuites. La pièce de mon éditeur était un petit cabinet où je rédigeais souvent les manuscrits qui étaient mis sous presse une fois terminés. Comme nous n'avions pas de fonds pour imprimer, je priais Dieu afin de les obtenir. Dieu me fournissait toujours l'argent nécessaire en temps voulu. Je n'ai jamais demandé de contribution à personne. Quelquefois, certaines personnes m'ont même supplié d'accepter de l'argent. Ainsi donc, j'ai regardé uniquement à lui. J'accepte de l'argent au nom de Christ. Si quelqu'un ne parvient pas à régler les questions d'argent de manière satisfaisante, il en sera de même pour de nombreuses autres choses. Nous devons résolument compter sur Dieu et ne jamais rien faire qui puisse attirer un quelconque déshonneur au Seigneur. Lorsque des gens nous donnent de l'argent, nous l'acceptons au nom de Christ et nous ne devons jamais solliciter de faveur de qui que ce soit. Grâce soit rendue à Dieu, après que j'eus dit à mes parents que je ne dépenserai plus leur argent, je fus en mesure de poursuivre mes études à l'école pendant 2 années. Bien que je ne sache pas d'où venaient les fonds, Dieu pourvut assurément à mes besoins chaque fois que c'était nécessaire. Quelquefois, la situation paraissait réellement difficile, pourtant Dieu ne me laissait jamais tomber. Nous plaçons souvent notre espoir dans les autres, mais Dieu ne veut pas que nous comptions sur les autres. Nous devrions apprendre une leçon dépensée comme nous recevons et n'être jamais semblable à la mer morte, qui est alimentée en eau, mais qui ne s'écoule nulle part. Nous devrions être semblables au Jourdain, qui reçoit ses eaux d'un côté et qui les déverse de l'autre. Les Lévites, dans l'Ancien Testament, étaient ceux qui se consacraient au service de Dieu et ils devaient eux aussi offrir leur dîme. Référence. Biographie de Whitman née en anglais diffusée sur Église de Maison Assiée, of the Divine Revelation in the Present Age, un voyant de la Divine Révélation dans le siècle présent, Witness Lee chapitre 1 et 2 témoignages de Whitman née, publié par Vox Dei / Bethel,